Peugeot qui délocalise d'Angleterre, 3000 chômeurs de plus là-bas. Mais c'est pas grave, parce que tous les commentateurs français nous disent l'Angleterre c'est formidable, il y a de la croissance, c'est formidable, il n'y a pas de chômage là-bas. Si t'es au chômage, une heure après tu retrouves du boulot, donc faut pas s'inquiéter. Par contre, ils disent pas que 40% des femmes sont obligées de travailler à mi-temps là-bas. Ils disent pas qu'il y a 20% de pauvres. Ils disent pas comment ils maquillent les chiffres du chômage. Hein, ils disent pas tout ça, qu'il n'y a plus d'industrie en Angleterre, que Thatcher elle a tout cassé, elle a cassé les syndicats, elle a tout cassé cette enfoirée. Ils disent pas tout ça, Ils disent pas qu'à Londres, pour habiter à Londres, il faut c'est 4 fois plus cher qu'à Paris, hein. Les pauvres anglais sont venus en France pour se loger. Ils disent pas qu'il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de services publics là-bas, hein, qu'ils sont obligés de venir se faire soigner en France. Ils disent pas tout ça, Enfin, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de chômage. Et puis, dernière remarque, la Chine, 10% de croissance. Laissons continuer la Chine de se développer, hein, de bouffer tous nos emplois. Laissons faire.
Salut Daniel, nous sommes mardi 21h30 devant le commissariat de police de Nevers. Nous demandons la libération d'un jeune d'origine congolaise qui s'appelle Patrick Dzinga, qui a été convoqué cet après-midi au commissariat et qui est donc depuis 14h en garde à vue. Nous sommes environ 70 à être mobilisés par l'intermédiaire du collectif Nivernais contre les expulsions de jeunes scolarisés pour demander sa libération. Et si jamais rien ne se fait, nous sommes prêts à rester toute la nuit jusqu'à ce qu'il sorte. Voilà, donc collectif Nivernais, il y a l'avocat, il y a tout, nous sommes nombreux et nous espérons arriver à nos fins pour libérer ce jeune d'origine congolaise. Salut Daniel et encore bravo et merci pour tes émissions. Salut.
Yves, prof de lettres à Dijon. Bonjour Daniel et à toute l'équipe. Ce message pour dire qu'à Dijon, quand on n'a pas d'expulsables, on les invente. Iban Dai, jeune Sénégalais de 19 ans, basketteur et élève de première S au lycée Garneau, risque fort d'être expulsé demain, jeudi 20 avril. Pas à l'aube, mais presque. Il était condamné dans la précipitation par le tribunal administratif de Lyon pour être entré illégalement sur le territoire français et avoir demandé ensuite un visa pour rapprochement familial. Au sein du réseau pour une éducation sans frontières, nous avons démontré depuis que ces deux chefs d'accusation étaient infondés, preuves à l'appui. Mais le préfet de région s'appuie sur la légalité de la chose jugée et il profite des vacances scolaires pour réussir ce que notre mobilisation l'a conduit à ajourner plusieurs fois depuis 2 mois. Demain matin, à 9h, nous serons présents place Suquet, devant le commissariat où il est convoqué, pour soutenir IBA au nom d'une certaine idée des droits de l'homme et de la citoyenneté. Merci à France Inter pour l'espace de liberté irremplaçable que représente l'émission Là-bas si j'y suis.
Bonjour Daniel, c'est encore Bruno Martin à Nevers. Nous en sommes à la 4e heure du siège du commissariat de Nevers. On demande toujours la libération de Patrick Zongi, élève de lycée, sans papier, convoqué pour faire avancer sa régularisation et arrêter cet après-midi. Voilà, les gens arrivent de plus en plus, il est 23h passées et des gens arrivent, encerclent le commissariat, il y a une ambiance du tonnerre, hein, je pense que ça s'entend. On espère que ça va s'arrêter, ce qui sera bon signe, mais sinon on est là pour rester la nuit. À bientôt.
Bonjour, Anne de Lyon, je suis prof d'histoire au collège de Fézin. Les élèves sont modestes mais géniaux. Demain, jeudi 20 avril à 17h, nous organisons avec un collectif d'enseignants une manifestation de soutien à Mathias et Mélaline. Ces deux élèves du collège sont chiliens, sans papier, et sous le coup d'une mesure d'expulsion. Donc venez les soutenir, eux, leurs familles et les élèves qui se sont engagés dans ce mouvement de soutien. Et puis, par la même occasion, vous venez découvrir que Fézin, ce n'est pas qu'une raffinerie, mais une ville agréable où il se passe des choses. Donc demain, 17h, devant le collège Frédéric Mistral de Fézin, en fanfare et en musique. Merci.
Bruno Martin, Nevers, là-bas si j'y suis, oui, ici on est nombreux, toujours dans la rue, après une levée de siège du commissariat de Nevers à 2h du matin, on s'est redonné rendez-vous à 10h devant la préfecture et les gens commencent à se rassembler, on bloque la place devant la préfecture, on attend être reçu par le préfet qui est parti en vacances hier soir et qui est rentré cette nuit, paraît-il, donc peut-être que c'est pour s'occuper de Patrick. voilà. La suite dans quelques heures peut-être. Ciao.
Et ben voilà, c'est chaud, hein. C'est chaud, il y a des endroits c'est chaud, il y a des endroits c'est doux, il y a des endroits c'est gentil, mais enfin quand même, c'est assez violent, toutes ces histoires qui nous parviennent dans le répondeur de là-bas, si j'y suis. Et on va rester un peu dans ces thèmes-là, dans les thèmes de l'immigration, ils vont en être question prochainement dans notre bel hexagone. Et nous, on va voir le moment où c'est les Français qui sont immigrés. C'est rare, hein, comme situation, que nous autres, bienheureux hexagones, nous soyons, c'est nous les immigrés, c'est nous la valise en carton, le passe-montagne, le gros ballot sur le dos. C'est rare que ça nous arrive, mais ça nous arrive et ça nous est arrivé. C'est arrivé à des Bretons, des Français Bretons, longtemps, dans une petite bourgade de Bretagne qui s'appelle Gourin. Eh bien, depuis pendant presque un siècle, les gens de Gourin sont partis de chez eux, de leur montagne noire, pour aller où donc, en Amérique, comme de vulgaires migrants, comme de vulgaires immigrés. Pourquoi? Parce qu'ils fuyaient tout simplement la pauvreté, la misère. Ils rêvaient aussi de nouveaux horizons. Et c'est leur vie qu'on va évoquer en Bretagne. On va aller faire ce tour dans ce petite région de Gourin et des mémoires d'immigration, mais pour une fois c'est dans l'autre sens que ça va se passer. Puis on va s'apercevoir d'une chose formidable, c'est que avant BHL il y a d'autres Français qui avaient découvert l'Amérique, et oui, et qui ont vécu là-bas et qui ont rapporté des images, des illusions, des impressions. C'est cet aller-retour avec ces Bretons d'Amérique du Nord que nous allons passer cette heure. Je dois apporter une précision. Hier, j'ai dit tout fanfaronnant que les sondages nous donnaient qu'est-ce que j'ai dit, 45 000 auditeurs de plus. Une auditrice a dit, ah, c'est formidable, on est 45 000, on est très content. Non, vous êtes 450 000 auditeurs qui écoutez cette tranche horaire de 17 à 18 heures. Voilà, je voulais apporter ces précisions. Et puis quoi donc? Eh ben, la vie est belle. Vous avez été nombreux à réagir sur le reportage d'hier sur le bidonville de Nanterre, de cette balade dans la mémoire des bidonvilles de Nanterre avec Dilatébi. En voici les échos. Et puis ensuite, nous partons pour la Bretagne via l'Amérique.
Oui, bonjour. Je m'appelle Jamel. Je viens d'écouter votre émission. Moi, j'ai 42 ans, j'ai vécu quelques années dans les bidonvilles, et c'est vrai que le fait de réécouter ces émissions-là, ça me rend toujours très triste et ça me fait toujours vraiment pleurer. C'est une très très mauvaise époque de ma vie, je crois que j'ai tout effacé dans ma mémoire. Mais bon, maintenant je vis très bien, j'ai un petit garçon et je crois que c'est les choses les plus belles de ma vie. Voilà, merci à vous, à bientôt.
Tous les habitants et visiteurs, auditeurs de l'île de Groix, au large de l'Orient, sont invités au 28e repère insulaire de Groix, ce jeudi 20 avril à 21h, au café Le Bateau Ivre, à Locmaria-Plage. Au programme, visionnage d'une vidéo de la dernière manifestation anti-CPE à l'Orient, tournée par des jeunes de l'association Il Tourne de Groix, et présentation de la reliure des comptes rendus des 21 premiers repères insulaires, reliure disponible au prix de revient des photocopies. À bientôt, salut à tous.
Oui, bonjour, c'est Michel Lacoste de la Confédération Paysanne du Cantal. Voilà, je voulais passer un message pour inviter tout le monde à une journée le 22 avril, à la salle de l'Escudier à Aurillac, dans le Cantal. Voilà, la Confédération Paysanne fait sa fête. Il y aura une conférence, un débat, et il y aura aussi un marché paysan, et à partir de 22h, une soirée dansante avec concerts, les groupes Trocaterme et Passage. Une vraie journée de mobilisation. Venez nombreux. Allez, Michel, salut.
Ouais, non, il y en a qui font les Américains, les Américains aussi, les Américains par là, le moto, le hélicoptère, je peux plus rien toucher.
Salut, c'est Daniel Mermet, la basse que j'y suis avec Olivia Gesbert, Gourin ou les Bretons d'Amérique.
Josette Joas, vous êtes une enfant de Gourin, vous aussi?
Oui, c'est vrai.
Alors moi, je vous présente pour la première fois, et là, on est sur la place de la mairie, place de la Victoire, je crois que ça s'appelle, à Gourin.
C'est ça.
Et alors derrière nous, il devrait y avoir quelque chose qu'il n'y a pas. C'est quoi?
Voilà, c'est la Statue de la Liberté. C'est une réplique de la vraie statue qui se trouve dans la baie de New York. Et cette statue a été offerte à la ville de Gourin en hommage à tous ces immigrants qui sont partis par Air France.
Alors ça avait été mis en place quand, ces liaisons charter entre les deux pays, finalement?
Les débuts, c'était dans les années 60. Au début des années 60, ce sont les associations bretonnes et le Stade breton de New York qui organisaient ces charters pour ces Américains, comme on les appelait, pour venir passer leurs vacances à Gourin, Roudoualex, Bézette, Sker.
Alors l'été, il y a une autre trace de cette américanisation de la ville de Gourin.
Ah, il y a les drapeaux américains et les canadiens, ça c'est sûr. Bah oui.
Bon, aujourd'hui c'est plus calme, il y a un petit marché aux habits. Là, un peu plus loin, on a vu un marché aux fleurs. Et il y a deux places principales, l'une avec l'église et l'une avec la mairie. Hein.
Voilà, c'est ça, oui.
D'accord. Alors après, il y a aussi un château. On va aller faire un tour. Il y a votre collection.
Le château de Trojoli, où on a nos expositions, plusieurs expositions de Gourin d'ailleurs, et on a aussi notre exposition sur l'immigration tous les étés.
C'est là que vous avez toutes vos archives, aussi, toutes vos photos, celles de vos grands-parents, de vos parents. Est-ce que ce que vous montriez tout à l'heure, où il y a maintenant un restaurant de kebab avec un petit balcon, ça c'était chez qui?
Chez mon oncle et ma tante. Et
c'était juste là-bas, hein, c'est ça, au bout de la rue, un peu plus loin. Quoi.
Voilà.
Alors en route pour la suite.
Voilà, du biniou saxophone. Ils ont été des... Combien ? Beaucoup de Bretons, de Gourin, pas seulement, des villages alentours aussi, à quitter leur patrie, leur pays, leur cher pays, pour s'exiler, pour aller tenter leur chance en Amérique, au Canada aussi, mais beaucoup à New York. Et dans la région, je me souviens à la fin des années 70 d'un petit endroit dans Manhattan qui s'appelait le Café des Sports. Et au Café des Sports à Manhattan, eh ben c'était tenu par des Bretons de Bretagne, de Gourin précisément, et qui se retrouvaient là pour boire un coup, pour parler du pays, pour parler du boulot. Et leur boulot, c'était des boulots généralement assez modestes, de serveurs, de personnel d'hôtel, de garçons d'étage, etc., qui se retrouvaient là et qui évoquaient leur pays, leur vie exactement comme on voit aujourd'hui, des bistrots avec des maghrébins, ou bien dans un coin des turcs qui discutent, ou des maliens ou des tous ceux qui pour les mêmes raisons ont quitté leur pays, chassés par les difficultés diverses et variées, et sont allés voir là-bas s'ils y sont, et surtout si on peut y vivre mieux. On a voulu évoquer cette histoire qui est très connue dans la région bretonne, et notamment de Gourin, pour
se mettre dans la situation dans laquelle nous sommes jamais ou très rarement, nous, comme Français. Quoique certains frontaliers connaissent cette situation. Les Français qui vont chaque jour travailler au Luxembourg connaissent cette situation de migration, d'être un petit peu avec une valise en carton quelque part. Et ça nous a semblé précieux de, pour une fois, de retourner un peu les rôles au moment où on nous annonce une immigration sélectionnée, choisie. Ces Bretons auraient-ils été choisis? Fallait-il les sélectionner pour qu'ils aillent là-bas? C'est des questions qu'on se posera chemin faisant entre Gourin, entre la Bretagne, la France et l'Amérique. C'est jusqu'à 18h. C'est là-bas si j'y suis. C'est France Inter, les Bretons d'Amérique du Nord.
Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'attends dans le sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je verrai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les cycles de train, toutes les sirènes de bateaux vont chanter sans trop la chanson de l'Eldorado de l'Amérique.
Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Voilà, moi je redescends, j'étais du côté de l'orgue. C'est une toute petite église avec une nef en bois.
Et nous chantons la gloire du Seigneur.
Il est 10h30, c'est l'heure de la messe du dimanche matin à Gourin, avec une centaine de fidèles. Bien logiquement en face, les autres devraient être au café. Alors là, je suis au café Jacques, qui est juste en face de l'église. Et après la messe, j'ai retrouvé Josette Joas. Et au fond du café,
Monsieur Jacques, qui habitait à côté là.
Et la patronne. Qui nous fait la visite. C'est un incroyable local, un café immense. Et au fond, il y a une arrière-salle avec des escaliers en bois qu'on est en train de monter. Et elle veut me montrer ce qu'était avant la salle de bal qui marchait l'été pour les Américains qui revenaient. Oh,
la piste n'est pas très cirée, mais
c'est immense.
Oh là là. Alors donc, cette salle a été construite par ma belle-mère qui revenait des États-Unis et mon beau-père, hein, qui ont fait construire ça. Et elle a été inaugurée en 1932.
Et c'est avec l'argent qu'ils ont gagné là-bas?
Ben, ça veut dire que l'argent, ils se sont fait un peu d'argent là-bas, mais ils ont fait des prêts sûrement parce qu'elle disait qu'elle venait de finir de payer quand la guerre s'est déclarée. Oh là. Elle fait 600 mètres carrés.
600 mètres carrés. Et c'est tout en bois.
Oui.
Et comment ça se passait autour? Il y avait les tables, en fait, pour les boissons.
Les garçons venaient chercher les filles, et puis les filles disaient non, 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 non.
S'asseyez là. On s'était assis là.
Ah, les filles étaient assises là sur les petits bancs en bois, sur le rebord.
Il y avait quoi comme musique? Un saxo, un accordéon, une batterie.
Et l'orchestre, il était là-bas au bout sur l'estrade.
Au départ, il était là-haut.
Ah oui, tout là-haut, au-dessus de la fenêtre.
Oui. Mais moi, je pense que ça n'a pas duré longtemps, ça. Bah maintenant, ça va s'arrêter, parce qu'ils ont fait une grande salle polyvalente à Tronjoli, là.
Oui.
Mmh. Alors là, je ne sais pas ce qu'on va faire, on verra bien.
Qu'est-ce qu'on dansait à l'époque?
Valse, le tango.
Et puis, bon, bah, pour les jeunes, il y avait le twist.
Ça, vous avez dansé, vous, le twist?
Oui.
Mais bon, ben, mon oncle et ma tante, Jo et Jeannette, tenaient le café de la gare.
Oui.
Et donc, avec leur jukebox, je sais qu'ils avaient toujours les dernières chansons des États-Unis. Bon, ben, l'été, les Américains apportaient cette culture, entre guillemets, américaine. Il y a des bribes de l'américanisme un peu partout ici à Gourin, même si on ne le voit pas dans les rues aujourd'hui, mais il y a toujours des petites choses qui rappellent que les gens étaient là-bas. Donc ils sont encore.
Les gens avaient trouvé que ça faisait un peu western avec les trucs là autour.
Ah oui, mmh.
C'est vrai que ça ressemble un petit peu au bordel dans les westerns, au saloon, voilà, dans les westerns. C'est vraiment ça, il manque plus que les portes qui claquent à l'entrée. Hein.
Voilà, une histoire peu connue à l'échelle nationale, localement bien sûr. On connaît l'histoire des Bretons de Gourin, toujours aujourd'hui. Il y a d'autres régions de France dont des Français sont partis. Je pense aux Basques par exemple, je pense à pas mal de lieux, de coins de France comme ça, dont on est parti. Pas toujours très flambant, souvent c'était pour aller vivre mieux ailleurs, vers d'autres horizons. Mais c'est une situation quand même qui est assez rare, et c'est pas mal, ça nous a semblé pas mal de revenir un peu là-dessus, et de voir un peu pourquoi on part, comment on partait aussi, parce que les choses les conditions ne sont plus les mêmes, même si au fond c'est toujours le même système, hein, on est pauvre, et puis voilà, la terre ne nourrit plus ses enfants, et il faut absolument s'arracher. Il y a un horizon, il y a un lointain, il y a là-bas où un jour on sera mieux. Et aujourd'hui, donc, on est avec Josette Joas, qui a publié un très beau bouquin aux éditions Ouest France, qui s'appelle Ces Bretons d'Amérique du Nord, avec une très belle photo sur la en couverture, une photo en noir et blanc ans, tournant de siècle, avec de dos un couple, un homme, une femme, l'homme à casquette, la dame avec le chapeau à bord rond, et puis il y a une malle, et puis il y a des enfants, dont un jeune garçon avec un col marin, et ils arrivent dans Manhattan, voilà, un jour gris, un jour de noir et blanc, comme ça, ils voient le skyline, ils voient cette ville promise qui effraie et qui attire, comme beaucoup, beaucoup, évidemment, d'Européens. On a vécu ça. Je me souviens en Irlande, si vous baladez toujours en Irlande, l'été, vous voyez de ces Irlandais américains qui reviennent et qui se baladent dans leur Irlande natale à la recherche de leur histoire, de leurs origines, de leur village. Et certains, comme les Bretons de Gourin, reviennent avec des voitures, enfin, font transporter des voitures qu'ils achètent là-bas par cargo, et puis roulent dans leur village ou dans leur pays avec des bagnoles mirifiques. Ils sont devenus les Américains, ils ont des grands chapeaux et ils se font refaire les dents impeccables comme ça. Mais ça nous fait sourire, mais c'est exactement ce qui se passe si vous allez vous balader au Portugal, dans le Maghreb ou dans le Mali. Je me souviens du nord du Mali, vers bien après Kai, dans le nord du Mali, où on avait rencontré ces Maliens revenus de France après avoir bossé chez Renault ou chez Peugeot, et qui se faisaient des belles maisons, dont un qui avait écrit sur sa maison « Au revoir » avec au-dessous le dessin d'un avion.
C'est une histoire qui commence à Roudoualec avec Nicolas Legrand, qui est devenu le personnage mythique de l'immigration de centre de Bretagne, qui est parti en 1890. Après 4 ans, on pensait qu'il avait été dévoré par les Indiens. Et au bout de 4 ans, il est revenu avec de l'argent plein les poches, comme on dit. Il a pu s'acheter un café pour sa femme, et puis une ferme. Et d'autres ont dit, mais si lui, il a réussi, nous aussi. Ce qu'il y a, s'il n'y a pas que Courin, il y a Roudoualec, Skers, Pezet, mais tout ça se tient dans un mouchoir de poche, ici, sur les 3 départements, vraiment, la limite des 3 départements. Et le phénomène, c'est que ces gens qui étaient de la montagne, sont partis, et ça a duré 100 ans. C'est ça ce qui est exceptionnel. Il y a eu une immigration au début du XXe siècle, 1903-1905, c'était à la séparation de l'Église et de l'État. Ça coïncidait avec le moment où le Canada recrutait du monde pour justement peupler ces grandes plaines. Les prêtres, surtout dans le Côte d'Armor, persuadaient des grandes familles des Côtes d'Armor d'aller s'installer dans le Saskatchewan, dans le Manitoba, dans l'Alberta. Mais là, c'était une immigration planifié, structuré par le clergé. Tandis que ici, à Gourin, c'était individuel. C'est-à-dire que, il y en a un qui partait, qui revenait avec de l'argent, les autres voyaient, si lui, il a réussi, moi aussi, parce que moi, j'arrive pas à vivre sur les petites fermes qu'il y a ici, c'est économique, très souvent. Et donc, c'était vraiment une contagion d'exemples. Il y aurait eu, entre 1880 et 1970, 115 000 Bretons qui ont émigré aux États-Unis, au Canada et en Argentine aussi.
115 000 Bretons quand même.
Les premiers, il faut pas oublier, c'était des fermiers. Alors ceux qui savaient faire aux États-Unis, ils allaient de ferme en ferme, proposer leurs bras contre la nourriture. On m'a donné un exemple d'un monsieur, Corbel, qui allait de ferme en ferme, et comme il connaissait pas l'anglais, il frottait son ventre et puis il disait « miam, miam ». C'est-à-dire que « je veux bien travailler si vous pouvez me donner à manger ». Et c'est comme ça que plusieurs ont commencé. Dans le Connecticut, dans le Vermont, ils étaient plutôt des bûcherons. Mon grand-père est parti travailler sur les fermes à Lennoxville, parce qu'il avait déjà son frère et sa sœur là, qui travaillaient sur les grandes propriétés. Et il, mais tout à fait au début, il a travaillé sur le chemin de fer. Et plus tard, mes grands-parents ont été gardiens de propriétés.
Votre grand-mère part un peu après, elle est célibataire d'ailleurs quand elle part.
Elle a travaillé, elle était dans le privé, ma grand-mère était dans le privé, donc elle était soit femme de chambre ou aide-cuisinière, et elle a toujours travaillé dans le privé.
Domestique.
Domestique, elle a toujours été domestique, mais ce qu'il y a, elle a toujours été domestique chez des gens très très riches.
Elle est partie sur un de ces gros bateaux là.
Oui, elle est partie sur la Savoie.
C'est celui-là, hein, oui. Qu'on voit en pleine tempête.
Voilà, deux cheminées. Ils étaient partis à 5 de Gourin, et donc ils ont pris le bateau au Havre. Et une fois qu'ils sont arrivés à New York, j'ai demandé, mais où est-ce que vous êtes allés? Et elle m'a dit, ben, on était à 2 à partir à Trenton, 2 à partir chez Michelin, et moi, je partais à Lennoxdale. Et c'est ça ce qui m'a tellement surprise. Pourquoi 5 personnes qui partaient du Gourin, du centre, du même village, pourquoi ils se dispersaient une fois sur le sol américain? Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait 4 communautés bretonnes au début du siècle.
Chacun allait là où il connaissait quelqu'un, en fait.
Voilà, la traversée a été assez bonne pour elle. Et une fois arrivée sur Ellis Island, c'était l'île dans la baie de New York. Et c'est là que les passagers de troisième classe étaient obligés de descendre avant de mettre le pied sur le sol américain, enfin à New York. Et là, ils passaient une visite médicale pour être sûr qu'ils étaient en bonne santé, qu'ils n'amenaient pas des maladies sur le continent. En Amérique, à New York, on dit très souvent « the Isle of Tears », l'île des larmes, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont été renvoyées dans leur pays.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'immigration bretonne des années 50-60 ressemble beaucoup à l'immigration maghrébine ou africaine subsaharienne qui est venue en France dans les années 60-70. C'était de la main-d'œuvre non qualifiée, pas trop chère, qui travaillait beaucoup dans la restauration ou le bâtiment.
Oui, mais voilà, comparé avec les maghrébins ici, je le vois pas.
Au cœur des montagnes noires où se côtoient étrangement le moderne et l'ancien. Là où il y a 30 ans résistaient encore les vieilles fermes bretonnes, s'élèvent aujourd'hui de nouvelles villas élégantes et rationnelles. Ces dernières sont le fait de ceux qui ont émigré vers les États-Unis, d'où ils reviennent avec un nouveau mode de pensée, un nouveau mode de vie. Oui, ils reviennent, les pierres tombales le prouvent, plus encore, ce mariage. Monsieur et Madame Le Gall se sont connus à New York. Cependant, c'est auprès de leur famille, à Gourin, qu'ils ont voulu se marier avant de repartir vers l'Ouest. Une nouvelle conquête, en quelque sorte.
Alors vous, c'est André Sévignan.
Voilà.
Vous, vous avez quel âge, sans indiscrétion?
Alors moi, je vais avoir 75 cette année.
Attendez, 75, donc vous êtes né en...
En 1931.
1931. Vous, vous êtes parti vivre aux États-Unis?
Ah non, moi je suis né là-bas.
Ah, vous êtes né là-bas?
Je suis né là-bas, à Paterson, dans le New Jersey. Donc alors, moi, c'est un pur...
un pur produit américain.
Voilà, et d'habitude on dit produit en Bretagne, alors c'est le contraire. Ouais. Alors, mes parents étaient partis en 1929.
C'était les premiers de votre famille à être partis là-bas?
Oui. Mon père était d'une famille de 15 enfants. Donc, sur 15, il y avait 9 de partis, quoi. Et alors, ma mère était une famille de 4. Et 2 de partis aussi. Alors, ça faisait pas mal entre les deux, quoi. C'est-à-dire, ici, c'était assez difficile. Hein. Du travail, il y en avait, mais de l'argent, il n'y en avait pas beaucoup. Alors... autrement, c'était la Beauce, hein. Puis alors, dans des petites fermes, quand il fallait vivre à quand même une quinzaine, comme ça, ou une dizaine, il y avait des grandes familles, hein, il y avait des grandes familles. J'en ai connu même où il y avait 18.
Et vos parents, ils ont travaillé où, alors, en arrivant là-bas?
Mon père travaillait chez Michelin. au départ, sans doute, et puis après...
Michelin, c'était quoi? Ça faisait les pneus?
Voilà, voilà, oui. Et ma mère travaillait dans une usine de soie.
Et vos parents, ils sont restés toujours là-bas? Ils sont rentrés après? Ou ils ont travaillé
alors, ailleurs? En 1934, ça allait très très mal, les usines fermaient... Il y avait des grèves, tout ça. Alors, ils se sont dit, hop, on retourne, quoi. Ils sont revenus, moi avec.
En fait, pour vos parents, l'aventure américaine aura duré 5 ans.
Oui, 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 oui. Comme ça, quoi.
Ils n'ont pas pensé à repartir après, à la fin de la guerre?
Ils étaient installés, ils avaient quand même refait ses bâtiments, bon, acheté ses terres, tout ça.
Ah, en rentrant, votre père avait acheté une ferme.
Voilà, voilà. Et au début, il est allé chez ma grand-mère, chez la belle-mère. En gros, ça n'a pas dû trop coller, sans doute, et puis, hop, là, quelques mois après, il a acheté une ferme, et puis... Mais mon père, quand il avait revenu, oui, il avait des économies, il avait failli acheter un bar tabac à Montparnasse, mais ma mère n'avait pas voulu, il paraît que ça vaut une fortune, même. Ah oui, là, il avait fait une gaffe, là, je pense.
Il est mauvaise.
Un peu plus, j'aurais été parisien. Et puis, voilà, après, j'ai commencé à faire des balles, j'ai commencé à faire de la musique...
Ça, c'était votre métier, vous aussi, les balles?
J'en ai fait un métier, finalement, oui, finalement, puisque, bon, et après, plus tard, j'ai monté un commerce d'instruments de musique, bon, maintenant, c'est le fils. Bon, il y a eu les prisonniers de guerre qui rentraient, tout ça, alors, il y avait Festin et Balle, quand ils se fiançaient, Festin et Balle, quand ils se mariaient, Festin et Balle, et le lendemain de la noce, retour de noce, Festin et Balle. Et alors, bon, les Américains, quand ils venaient en vacances, tout ça, il y avait toujours des repas de famille. Alors, ils dansaient aussi. Alors, ça nous faisait travailler, quoi. Ouais.
Alors, difficile de savoir si nos amis bretons ont exporté leur art musical et leur chant. C'est possible. Ils ont immigré aussi au Canada, faut pas l'oublier. Dans d'autres conditions, là, c'était des prêtres bretons qui les incitaient à immigrer. Mais en tous les cas, aux États-Unis, entre 1880 et 1970, il y a environ 55 000 Bretons qui ont ainsi émigré vers l'Amérique du Nord. Certains sont venus, voilà, on les rencontre aujourd'hui à Gourin, d'autres sont restés là-bas, ont fait fortune ou non. C'est l'histoire d'une immigration peu connue à l'échelle nationale.
Et c'était marrant, tout de suite après la guerre... Bon, moi, je me rappelle, là, mon cousin et puis mon oncle, là, ils sont venus avec une Buick, une grosse Buick, et puis on voyait la Buick dans le pré, et puis les gens avec des râteaux au foin, alors ça cadrait pas tellement. Je me rappelle, ça faisait drôle, parce qu'il y avait déjà la radio à bord, à cette époque-là.
Oh, ça, c'est les vieilles cadiaques.
Et alors, pour passer sous les pommiers... L'antenne avait du mal à passer.
Alors, qu'est-ce que vous savez jouer avec cet accordéon? Vous me faites trois notes avec?
Juste pour voir comment ça marche. Je vais faire un petit numéro. Attendez, je vais faire un petit numéro. Alors, c'est-à-dire, je joue de l'accordéon ou du bandoneon et je m'accompagne à la contrebasse.
Ah non, vous n'allez pas me mettre un CD?
Si, mais moi je.
Ah, pour accompagner?
Ouais.
Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait? L'hymne américain?
C'est nous, c'est ton neveu.
Ça va, non ?
On n'a pas traîné parce que on s'est dit, elle a dit, ben il vaut mieux peut-être aller voir la tante d'abord.
Oui.
Hein, parce que c'est ce que bonheur.
Je me mets plus près.
Ils étaient d'une famille de 15, et alors sur 15, il y avait 9 de partis aux États-Unis. Mon père était le premier parti.
D'accord.
Moi, je suis Philomène.
Philomène.
Oui, Philomène Bettel. Je vais avoir 89 au mois de mai. Je suis allée aussi avec un frère qui, qui était là-bas, qui tenait un restaurant. Il a voulu que j'aille, j'ai dit, je vais essayer. Et puis alors, quand il a eu pour m'embaucher, il m'a embauché. Alors j'ai passé 28 ans là-bas, chez eux.
Et c'est votre frère donc qui était déjà là-bas?
Oui, moi c'était Café Brittany.
À New York?
À 54, oui.
Les salaires étaient quand même 4 à 5 fois plus forts qu'ici, quoi.
Ouais. Alors vous avez fait quoi là-bas?
J'étais le... Mais le pain et le beurre sur la table au début. Et puis après, je suis passée au maîtresse quand je parlais l'anglais. Mm. Ça a pris un moment parce que moi, j'ai pas été à l'école beaucoup.
Vous avez encore un peu d'accent?
Oui, vous croyez?
Oui.
Oh non, j'ai l'accent breton.
Et... Alors après, vous avez pu faire le service en salle une fois que vous parliez anglais?
Oui, après à table, comme ça, j'ai commencé à servir. Et puis alors... Si je ne comprenais pas, les Américains se sont sentis. Et ils me prenaient, ils me disaient, par exemple, pour un verre d'eau, je n'avais pas compris, give me a glass of water. Alors, je ne savais pas ce que c'était ça. Alors, ils m'expliquaient bien, puis je commençais à comprendre. Oui.
Et vous êtes allé à Broadway écouter de la musique?
Oui, oui, j'étais allé à Broadway pour les shows, des fois. Et puis à Madison Square Garden. Dans ce moment-là. Puis il y avait les garçons, j'allais, quand il y avait les chevaux sauvages là, à Madison Square Garden, j'allais avec eux aussi. Quand il fallait monter sur le cheval et puis on ne pouvait pas rester dessus.
Ah ouais, c'était les rodéos.
Ah oui,
qu'est-ce que c'est la première chose que vous avez vue en arrivant à New York?
C'est la statue de Liberty.
Celle qui est dans votre cuisine là,
oui,
affichée?
Oui, statue là. Premier jour de New York, je suis partie au parc, au Central Park avec mon frère. Et j'ai trouvé un dollar par terre qui était sale. Et ce dollar-là, j'ai envoyé à quelqu'un qui était à l'hôpital avec moi, là, qui faisait de la vaisselle, il était pas bien. Il était dérangé un peu. Parce qu'on cherchait après le dollar à ce moment-là.
On cherchait après le dollar?
Mais oui. Mais oui. On travaillait tout le temps.
Pendant tout ce temps-là, vous avez envoyé de l'argent à vos parents?
Ah oui, on envoyait un peu d'argent de temps en temps. De temps en temps, j'envoyais ma mère, parce que ma mère n'avait pas de retraite, elle. Elle avait une ferme, puis elle a partagé entre les enfants, et les enfants leur donnaient un peu d'argent.
Alors du coup, qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes revenu ici?
Qu'est-ce que j'ai fait?
Ouais.
Tricoter, faire des crochets, tricoter, tout ce que je faisais.
De l'autre côté de l'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique, brillait d'un éclat fantastique le dollar. Il faisait rêver les gueux en loques, les marchands de soupe et les loufoques, dont le cerveau va la breloque, le dollar. Et par milliers de la vieille Europe, quittant sa ferme, son échoppe, où les bas quartiers interlopent, on part, ayant vendu jusqu'à sa chemise, on met le cap sur la terre promise pour voir le vieux dans son église, le vieux dollar. Et déjà dans la brume du matin blafard, le soleil qui s'allume, c'est un gros dollar. Il éclaire le monde de son feu criard. Et les hommes à la ronde l'adorent sans retard. On ne perd pas le nord, vous pensez, juste le temps de s'élancer, de s'installer, d'ensemencer, ça part. On joue, on perd, on gagne, on triche, pétrole, chaussettes, terrains en friche, tout s'achète, tout se vend, on devient riche, dollar. Mais les vieux pneus en conserve, et même afin que rien ne se perde, on fait de l'alcool avec la dollar. Jusqu'au bon Dieu qu'on mobilise et qu'on débite dans chaque église aux enchères comme une marchandise à coups de dollar. Mais sur la ville ardente, dans le ciel blafarde, cette figure démente, c'est le Dieu dollar. Pas besoin de réclame, pas besoin d'effort. Il gagne toutes les âmes parce qu'il est en or.
Sur la carte, un nom de village, Broudoualec. C'est là que tout commence. Des alentours, on s'en vient vers la quincaillerie. Mais on n'aime pas trop le labo. On est devenu méfiant par la force des choses. Pourtant, la route de l'Ouest passe là, et en demandant quelques articles, on peut glisser au maître du lieu le mot qu'il faut prononcer à voix basse, de peur qu'on ne l'entende de trop.
Bonjour, monsieur.
Monsieur.
Dites-moi, pour New York.
Vous auriez l'intention d'émigrer?
Oui.
Avez-vous des relations à New York?
Non.
Personne?
Non.
Des connaissances comme de la langue américaine?
Oui.
Ah ben oui. La question ne se pose pas, si vous voulez. Oui. Parce que vous allez passer derrière, si vous voulez, au bureau?
Oui, avec plaisir.
Bon, je vous en prie. Pardon. Il y a un questionnaire d'inscription d'abord à compléter, le voici.
Oui.
Alors vous le complétez, vous l'adressez au service des visas de l'ambassade des États-Unis aux 2 rue Saint-Florentin, oui. Paris 1er.
Oui.
Et par la suite, alors, on vous invitera à préparer votre dossier. Oui. Le dossier qui comprend d'abord comme pièce maîtresse soit des documents émanant d'un répondant éventuel, oui. qu'on appelle une garantie de soutien, ou alors sous forme de transfert bancaire.
Quelles sont les professions que l'on peut exercer là-bas?
Ben, pratiquement toutes les professions. Mais les gens qui partent d'ici, dans la proportion de 95%, travaillent dans la restauration.
Comment ça se fait?
Ah ben là, ça ne demande aucune préparation spéciale. Ils commencent soit dans la cuisine comme aide. Alors là, on n'exige pas de connaissances spéciales.
Oui.
Simplement le désir de vouloir travailler.
Voilà un documentaire de 1965 à la télévision locale. On s'intéressait à ce qui se passait à Gourin. Comment immigrer? On immigrait encore. Aujourd'hui, cette immigration s'est quasiment interrompue, mais ça a laissé des traces dans la mémoire. C'est un moment très important. Puis il y a cette statue de la liberté au milieu de cette petite bourgade de 4500 habitants de Bretagne. Un siècle d'immigration.
Quel vent!
Nous sommes dans les Bretagnes.
Bonjour madame, enchantée.
Oui,
bonjour. Bonjour.
Madame Jacques, Thérèse Jacques, née Le Talec.
Joseph Le Talec.
Alors vous étiez tous les deux donc partis à un moment ou à un autre aux États-Unis.
Oui.
Le premier c'était qui?
C'était lui.
Début 50. Donc c'est pas la même année, moi 49 et puis elle 50.
Vous savez quoi? Il m'a dit à 19 ans, un peu avant de partir, il me dit, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais dans la police? Est-ce que je vais aux États-Unis? J'y vais aller aux États-Unis. C'est comme ça que ça a été décidé.
Qu'est-ce qui vous a poussé à partir en 49? Il n'y avait pas de boulot ici?
Si, je travaillais. Je me nuisais à Roudelec. Mais bon.
Je me suis dit, on voyage ou on ne voyage pas. Je n'ai pas regretté, au contraire. Oui.
On a fait comme tout le monde.
On a vécu. On n'a pas ramassé des millions après nous, qu'on n'a pas besoin de ça. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on a pu sortir de notre trou ici. Autrement, on aurait peut-être pas sorti. On a mis 9 jours à faire la traversée.
Il y a eu une tempête, en fait.
Terrible. Les hublots, 2 cabines inondées. Je n'avais pas été malade. Les photographes nous attendaient à l'arrivée à New York. Ça fait une drôle d'impression, hein. Et je vous dis, tous ces journalistes qui flashaient sur le bateau, là, enfin. Ben, on pensait passer à la douane, en tout cas. Parce qu'il fallait encore ça, cette corvée. Les Américains d'abord, les étrangers après.
Oui. Pour vous, les États-Unis, c'était New York, pour tous les deux.
Oui, moi, j'ai fait 2 ans de service militaire. J'ai fait du nord au sud. J'ai fini dans... En Georgie, à côté d'Atlanta.
Yes, GI. You got one here. It's GI.
Et vous avez fait la guerre du Vietnam?
Ah, non, il a eu la chance. Là.
Juste le service militaire américain.
Oui, 2 ans.
Présentez bien. Vous l'avez vu, sa photo?
Oh, qu'il était beau. En plus, il y a marqué, vous avez sur l'épaule, là, follow me, suis-moi. Oui. Non, mais dis donc, c'était une invitation pour les filles, ça, c'est n'importe quoi.
Ah, mais...
C'est pas sérieux. La cravate, les écussons.
Quand tu t'es à l'armée, vous avez fait les 400 coups aussi.
Oh, pas les 400 coups quand même. Ouais.
Les 399 coups. Et vos parents, ils faisaient quoi?
Cultivateurs aussi.
Donc, à partant aux États-Unis, il y avait l'idée de travailler et puis de ramener un peu des sous.
Oui, on était allé pour ça, hein, pour le travail. Pendant 5 mois, j'ai travaillé dans le privé. Aide cuisinière, faire les pluches. Il y avait des manteaux de bison, là. Je sais combien. Un jour, une des femmes de chambre me dit, Thérèse, elle me dit, mettez ça sur votre dos. Try that. Ben, on ne me reconnaissait plus. Ah non, je vous jure, quand vous êtes habillée comme ça, je ne remerciais pas assez. Elle me dit, qu'est-ce qu'on dit? Oui, madame. Et j'ai dit, oui, madame, mais je ne vais pas toute la journée vous dire merci, madame.
Ah, c'était quand même des boulots durs, hein.
Ce que les Américains n'aimaient pas. Vous ne voyez pas l'Américain, c'était rare.
Dans le restaurant.
C'était les immigrés qui faisaient ces boulots-là.
Quoi. Voilà. J'ai été gagner ma croûte là-bas, c'est tout.
Ah ben, ouais, boulot, hein.
Boulot, vous allez me faire croire ça.
Oui. Tu passais pas inaperçu. Ils allaient dans les boîtes, mon mari, et puis lui, il se mettait rendez-vous, tiens.
Mais non, on allait. Mais là-bas, on allait danser dans l'église. Ah, bah, toi, tu venais pas venir.
L'église?
Non.
J'ai été.
T'as été aussi?
C'est là que t'avais connu ta femme.
C'est là que j'ai connu ma femme, oui.
Ah, tu vois.
Et en plus, je pensais qu'elle était canadienne, alors qu'elle était calaisienne, elle avait dû me dire, et puis. J'ai mal compris. Je pensais qu'elle était canadienne.
Elle était de Calais.
Oui.
Ça fait maintenant plus de 100 ans que le premier immigrant s'en est allé de la Bretagne chercher le nouveau monde. Il n'avait pas une grosse valise, mais était plein d'espoir de découvrir la terre promise, le pays du dollar. Il a quitté Gourin, il a traversé l'Atlantique pour trouver l'Amérique. Alors depuis, des milliers l'ont suivi, construire dans ce pays lointain le monde américain. Sur un grand paquebot, ils étaient fiers, ils étaient braves de faire le monde nouveau. Arrivant au port de New York, contemplant la statue qui a leur donné la force, la foi et la vertu. Le bon matin, il a quitté Gourin, il a traversé l'Atlantique pour trouver l'Amérique. Alors depuis, des milliers l'ont suivi, construire dans ce pays lointain le monde américain.
Et voilà, bien avant Bernard-Henri Lévy, les Bretons de Gourin avaient découvert l'Amérique et nous l'ont raconté aujourd'hui. Pensons à ces immigrés, à l'heure où il nous faudra savoir ce que nous allons choisir comme immigrés, puisque maintenant on va vers l'immigration, on choisira dans tous ces pauvres qui veulent venir chez nous, ceux qui nous seront les plus utiles. Pensons à ceux qui ont quitté leur Bretagne et sont allés vivre aux États-Unis et en sont revenus, ou bien là-bas ont prospéré s'ils sont installés. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. Merci à toutes et à tous. Merci à Josette Joas. Merci à Christian Lecoq, Christiane Jamais, Joël et André, Sévénéan, la tante Philomène, monsieur et madame Ledu. À lire de Josette Joas, Christian Lecoq et Christine Jamais, Ces Bretons d'Amérique du Nord, aux éditions West France. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Armel M. C'est Antoine Chaoyan Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste géniale, assistée de Pascal Pascariello et Raphaël Moutard pour le répondeur, dont le numéro est 01 56 40 37 37. Très clair.